L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique. Nous sommes le samedi 19 septembre 2015. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures dédiées à l'actualité high-tech et à l'économie numérique. Avec autour de cette table, écoutez, toute l'équipe de l'atelier. Tout à l'heure, nous retrouvons Jean de Chambure pour sa vue d'Asie depuis Shanghai. Aurore Géraud, Lila Megraoua et Antoine Cyr sont là. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure aussi, nous retrouverons bien Nathalie Doré de l'atelier US. Romain Chaperon est avec nous aussi au téléphone. Salut Romain.
Bonjour.
On va parler avec Romain dans un instant depuis San Francisco de Social Commerce. Et puis Antoine, tout à l'heure pour le crash test.
Oui.
Qui sera très hype.
Et oui, il sera
consacré. Mais c'est tellement vous ça.
Il sera consacré au beau hype. Je me suis dit que peut-être qu'en parlant de hype, j'allais devenir hype. Il allait se passer une espèce de, comment dire,
oui,
d'osmose entre le sujet et le locuteur qui me conduirait à devenir hype.
C'est tellement beau ce que vous dites. On retrouvera Antoine tout à l'heure avec aussi sa sélection de cybergadgets, bien évidemment. Notre Silicon Carnet, on s'intéressera à la personnalité incroyable d'Elon Musk tout à l'heure avec Nathalie. Notre enquête de l'atelier, on évoquera l'Eldorado des objets connectés, la stratégie digitale de Solocal Group. Groupe Expat Jaune dans notre web stratégie. À quoi ressemblera l'Homo Numericus? Ce sera notre passion selon Sanette. Notre World Tour qui nous amènera du côté de Moscou. Notre French Tech Tour à Toulouse. Éric Le Bourlou, la rédaction de Zeronet.com sera là. Et le crash test d'Antoine. Voilà, vous savez tout. Bienvenue les amis pour ces deux heures donc d'actualité high-tech comme chaque samedi. C'est l'atelier numérique. On commence par l'actualité, vue par l'équipe de l'atelier. Et si on commençait par vous, Antoine, cette semaine? Étant donné que vous êtes hype, je ne vois pas comment faire autrement.
Voilà, bon, mais je suis pas aussi hype que vous, pas aussi hype que nos auditeurs, pas aussi hype que ces deux charmantes jeunes femmes. Voilà, donc il y a pas.
Elles rougissent, vous avez vu?
Oui, c'est normal. Nos auditeurs
normal.
Ne peuvent pas le voir, mais c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Alors, qu'est-ce que vous avez comme news, mon cher Antoine? Après tous ces compliments.
Eh bien, le fait que contre toute attente, l'utilisation des ordinateurs à l'école n'améliorerait pas les résultats scolaires.
Surtout s'ils sont éteints.
les ordinateurs. Non, vous parliez pas des élèves.
Non, eux ne le sont pas. Enfin, je l'espère en tout cas.
Bon, donc ça arrive d'ailleurs, c'est une information de la BBC qui souligne le fait qu'un rapport de l'OCDE, hein, donc c'est quand même une organisation
qui ne rigole pas.
S'appuie sur notamment le test qu'on appelle le test PISA, qui est mené dans plus de 70 pays et qui montre que les systèmes éducatifs qui ont investi largement dans les nouvelles technologies, en fait, n'ont pas de meilleurs résultats, ou plutôt leurs élèves n'ont pas de meilleurs résultats au test PISA pour la lecture, les mathématiques et les sciences. Et pis que les pays les plus
geeks.
Oui. D'accord. Pas 3-14.
Non, hein. non. Pas celui des vaches non plus.
Non plus.
D'accord.
Voilà. Donc, les pays les plus geek-friendly n'ont pas démontré d'amélioration flagrante des performances des élèves. Alors, évidemment, ils savent mieux servir d'un ordinateur.
Ben, forcément.
Ce qui, au 21e siècle, n'est pas totalement dépourvu d'utilité. Mais, en revanche, pour ce qui est de compter, lire, connaître les sciences, ben non, là, il n'y a pas d'amélioration particulière. Donc, en fait, l'ordinateur, ça sert à apprendre à servir d'un ordinateur, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne vous rend pas tellement meilleur dans les autres disciplines. L'écart socio-économique aussi entre les élèves n'est pas réduit par les technologies, il est même, dans certains cas, accentué, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Bon, évidemment, c'est quand même pas une excuse pour refuser, quand on est élève, de se servir d'un ordinateur. Encore une fois, ça apprend quand même à servir d'un ordinateur, ce qui aujourd'hui est utile. Mais tous les autres savoirs, tous les savoirs dérivés, ne progressent pas particulièrement.
Très bien, merci beaucoup Antoine. Aurore Géraud.
Oui, moi je vais vous parler de Facebook, du Facebook et du bon ton « je n'aime pas ».
Ah oui !
Il arrive, Mark Zuckerberg a officiellement annoncé ce mardi, que dans l'ordre d'un Q&A dans son QG, qu'il comptait lancer enfin le bouton « je n'aime pas ».
Ouh là là, moi j'imagine, enfin je m'imagine dans des arènes,
romantique,
avec comme des gladiateurs, oui, où tout le monde a le
pouce
en bas là.
Antoine Cyr.
Je Je n'aime pas. J'ai peur, moi. Je pense que je vais faire des cauchemars. Je vais entendre comme un écho. Je n'aime pas.
Mais du coup, Mark Zuckerberg, j'ai du mal à le dire, pense qu'au contraire, ça permet de montrer son empathie. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un décède dans votre famille et poste ça sur Facebook,
mais ça pouvait être évidemment compris. Alors évidemment, quand quelqu'un annonçait une mauvaise nouvelle, on avait toujours beaucoup de mal à mettre j'aime.
En
même temps, c'était...
j'ai perdu mon boulot. J'aime.
Mais en même temps, je vois bien que parfois il y a des gens qui franchissaient le pas par méchanceté, mais par envie de dire à la personne qui avait un malheur, je t'aime.
Je compatis. Donc j'aime.
Voilà. Et là, ça peut être compris en sens inverse, c'est-à-dire vous annoncez une nouvelle épouvantable et en plus maintenant on va dire je n'aime pas. Voilà. Donc je n'aime pas, ça peut être je n'aime pas qu'il t'arrive quelque chose de mal, mais ça peut être aussi je ne t'aime pas, c'est bien fait pour toi.
Quelle horreur.
Bon, ça serait pas je n'aime pas apparemment. Ils ont laissé supposer que ça pouvait être autre chose, comme je suis désolé, je compatis, ou quelque chose comme ça.
Ils sont trop unanimistes, ils sont trop dans le sourire.
Il y aura jamais
un bonheur.
Non, mais attendez, il y aura jamais le bouton j'aime pas dans Facebook, c'est impossible.
Une émoticône peut-être.
Et puis
peut-être une émoticône, oui.
Et puis sur le site de toutes ces belles marques qui ont des belles pages Facebook pleines de likes, d'un seul coup qui se recevraient des je ne vous aime pas. Non, pas chez Facebook. Non,
c'est pas possible.
Non.
Très bien. Allez, direction les US maintenant. Avec vous, Romain Chaperon, on va parler de social commerce.
Oui, effectivement, François, le social commerce, alors ce sujet est sur la table depuis quelques temps déjà, mais il semblerait que les choses s'accélèrent depuis le printemps dernier, puisque les réseaux sociaux, les nouveaux réseaux sociaux s'activent pour monétiser leur audience mobile au-delà de la publicité classique. Et le commerce en ligne est, c'est le cas de le dire, en ligne de mire. Alors, petite question, François, est-ce que vous avez déjà acheté un produit depuis votre smartphone ?
Oui ! Alors, vous voulez que je vous dise ce que j'ai acheté ? C'est ça ?
Comme vous voulez.
Est-ce que
votre expérience utilisateur est agréable ?
Moi, je l'ai vu hier soir, il était en train d'acheter l'encyclopédie des poètes irlandais.
Oui, c'est vrai, ils vont me livrer là un container là bientôt. Non, mais en fait l'expérience est très bien passée et c'est vraiment très agréable. Moi je trouve qu'acheter via mobile c'est super, franchement.
D'accord, c'est un contre-exemple parce que les mobinautes se plaignent régulièrement que l'achat mobile, l'expérience est assez déceptive. Alors vous êtes un contre-exemple et tant mieux.
Ouais.
Mais en tout cas, par rapport à cette expérience assez déceptive, il y a une start-up qui a décidé de s'attaquer à ce problème. Et cette semaine, ils viennent de lancer un tout nouveau dispositif. Et donc cette start-up, elle s'appelle Stripe. Alors Stripe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société californienne qui, depuis 2010, propose aux marques de gérer leur mode de paiement en ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, Stripe, ça fait partie des fameuses unicorns, puisqu'elle est déjà valorisée à 5 milliards de dollars et elle travaille dans plus de 20 pays différents. Et la solution de Stripe, c'est quoi ? Alors, elle s'appelle Relay. Et c'est tout simplement un outil qui va permettre aux marques de mettre en ligne de manière assez simple leurs produits sur mobile et notamment sur Twitter. Et moi, pour l'avoir testé, je dois avouer que c'est assez séduisant. Vous êtes sur Twitter, il suffit de cliquer sur le bouton Buy en bas à droite d'un tweet pour ouvrir immédiatement une page qui présente le produit en détail. Un nouveau clic, vous renseignez votre carte bancaire, l'adresse de livraison et l'achat est réalisé. Et si vous le souhaitez, Stripe peut garder vos informations. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de renseigner tout ce qu'on y a lors d'un futur achat. Pour le client, l'expérience, elle est donc agréable. Pour Twitter, c'est intéressant aussi puisque le mobinaute qui reste dans l'application Twitter, il ne quitte pas le service. Et d'ailleurs, Twitter, c'est pas le seul réseau social à s'intéresser à ce sujet. En juin dernier, Pinterest avait lancé son Buy Button. Et selon Pinterest, ce bouton est déjà disponible sur plus de 2,5 millions de produits. Mmh. Et dans la foulée, Instagram a fait la même chose avec un bouton. Alors eux, Instagram, ils l'ont appelé Shop Now.
D'accord.
Il est encore un peu trop tôt pour tirer les premiers enseignements de ce social commerce qui se développe à grand V. Mais une chose est sûre, c'est que tous les réseaux sociaux font du e-commerce l'une de leurs priorités.
D'accord.
Alors est-ce que les réseaux sociaux vont devenir un immense supermarché en ligne ? On va suivre ça dans les mois à venir. Et vous pourrez continuer à acheter depuis votre mobile.
Ouais. Bah écoutez, moi pour tout vous dire, je passe par l'appli Amazon et c'est vraiment bon. Le truc, c'est que c'est même trop. Quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on ne s'arrête plus. On a envie de tout acheter. Merci Romain. Lila Megraoua.
Oui, alors figurez-vous pour l'économie collaborative, ça sent pas bon du tout, à la fois en France et aux États-Unis. Deux exemples. Premier exemple, un tribunal américain aurait obligé un entrepreneur à rembourser les fonds d'un projet Kickstarter, non pas pas réalisé, mais qui n'a pas été réalisé suffisamment rapidement selon le tribunal, de sorte que cette campagne qui devait servir à financer, enfin qui a servi à financer la création de cartes, de jeux de cartes, à l'époque en 2012, ils avaient réussi à récolter $25,000 à l'issue, et aujourd'hui ils sont censés payer $31,000 à l'État pour infraction à la loi locale de protection des consommateurs et $23,000 pour couvrir les frais de justice.
Ouh là là.
Alors que les jeux de cartes ont bel et bien été livrés. En revanche, au bout de 3 ans.
Ah voilà, c'est ça. Donc,
au bout de 3 ans.
Ouais.
Donc d'où la plainte. Autre nouvelle en France, on a Booksup, une start-up française qui est spécialisée dans l'échange de bouquins, de bouquins, qui a reçu la visite de la répression des fraudes sur plainte d'un, on ne sait pas, distributeur, éditeur, diffuseur, maison d'édition.
Très bien, merci beaucoup Lila. Et comme promis, donc on retrouve Jean de Chambure depuis l'Asie, depuis l'autre bout du monde carrément, à Shanghai. Mon cher Jean, bonjour.
Bonjour François.
Alors c'est notre rendez-vous vue d'Asie. Alors la semaine dernière, on a parlé de fourmis bleues. Cette fois-ci, on va parler des fourmis bleues, ou plus précisément, en fait, comment se structure l'écosystème digital en Chine.
Oui, voilà François, on va continuer dans les fourmis bleues. Alors la fourmi bleue, vous avez un peu expliqué la semaine dernière, c'est l'emblème donc de Alibaba, le leader du e-commerce en Chine.
Oui.
Les fourmis bleues, c'est voilà, toutes les startups possibles, imaginables et à imaginer qui vont arriver en Chine. Alors c'est évidemment très très important cet écosystème digital en Chine, parce que on l'a beaucoup vu là depuis le début de l'année, le grand développement économique chinois, la croissance chinoise est aujourd'hui en phase de ralentissement, ce qui est assez logique après 15 ans, et donc le pays a besoin absolument de réinventer son modèle de développement. Et pour réinventer ce modèle-là, pour faire autre chose que de fabriquer en gros des produits low cost, il faut absolument qu'il trouve des relais de croissance, donc il faut absolument qu'il parie sur l'innovation et qu'il parie sur le digital. Alors, comment est-ce que ça se structure aujourd'hui le digital en Chine? Vous savez que nous, à l'atelier, donc on est à Shanghai, on est en fait dans l'un des trois pôles où la Chine digitale est en pleine évolution. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est vraiment la géographie. Donc, puisque contrairement, par exemple, aux États-Unis, où il y a quand même une énorme concentration de start-up à San Francisco, là, c'est vraiment trois pôles qui se dessinent. Au nord, ben, vous avez bien sûr Pékin, avec une allée, une avenue, je vous raconterai prochainement un peu plus ce qui s'y passe. C'est la ville des entrepreneurs, ça s'appelle Zhongguangkun. Excusez pour mon accent qui n'est pas encore parfait, François.
Mais il s'améliore de semaine en semaine, hein, d'ailleurs, Jean, hein, on le sent. Hein.
J'essaye, de jour en jour.
Ouais.
Donc, bon voilà, 15 000 sociétés privées qui sont situées au nord de Pékin. Derrière ces sociétés privées, c'est des universités, celle de Pékin, celle de Tsinghua, évidemment des pépinières de talent, et puis il y a aussi des incubateurs privés, comme Alibaba d'ailleurs, qui n'est pas très loin, ou des incubateurs publics. Donc on retrouve au fond un peu le triptyque financeur, universitaire, entrepreneur qu'on a à San Francisco. Mais bon, voilà, c'est à l'échelle de Pékin, ça démarre 15 000 sociétés. Cette année a commencé dans les années 80, au tout début de l'informatique. Donc ça, c'est un pôle très intéressant. Il y a, en plus de ça, bien sûr, Shanghai, où à côté de Shanghai, il y a Hangzhou, qui est la ville, en fait, vraiment de Alibaba. Oui. Donc c'est à peu près comme Paris-Fontainebleau, si vous voulez, Shanghai-Hangzhou.
Oui.
Et Shanghai, c'est là où se passe, en fait, deux grands types de start-up. D'un côté, celles qui sont focalisées sur le marketing digital, un peu comme les start-up de New York, d'une certaine manière. Et de l'autre, on le voit plus récemment, et c'est très intéressant à suivre, c'est les start-up qui vont moderniser les métiers de la finance. Alors, ça peut être des start-up comme Lufax, qui est un des très, très grands acteurs mondiaux dans le domaine du peer-to-peer, ou des spécialistes de la traçabilité des marchés financiers, du blockchain, hein, c'est un terme un peu technique, mais c'est une sorte de RFID des marchés financiers, oui, pour vraiment tracer à la nanoseconde la manière dont tel ou tel titre va circuler en bourse. Et puis alors, revenez le dernier, pour vous descendre un peu plus dans le sud, après Pékin, Shanghai, Hangzhou, vous avez Shenzhen, et là, c'est vraiment l'industrie, c'est un peu le self-service, un gigantesque restaurant de capacité de production mondiale, où les usines de Xiaomi, donc le fabricant de téléphones, ou Huawei, vont exporter, produire des produits en fonction de commandes que le marché va faire à tel et tel moment. Donc voilà, c'est trois grands pôles, et on peut le souhaiter, évidemment, ces trois grands pôles vont grandir de nouvelles pépites. Je vous parlais donc l'année, semaine dernière, de ce superbe succès de Alibaba face à eBay, qui a donné après des tas de développements très très variés dans l'e-commerce. Et ben voilà, donc de la première fourmi bleue, on peut en souhaiter des tas d'autres, et pour la Chine bien sûr, pour son développement, et puis pour ce que j'aurai le plaisir de vous raconter
chaque semaine
avec la prochaine qui sera focalisée sur la mobilité.
D'accord, bah oui, la mobilité, bien sûr. Vous allez nous expliquer un petit peu comment justement nos amis chinois manipulent leur smartphone. Merci beaucoup Jean, on se retrouve la semaine prochaine, c'était notre vue d'Asie. Et puis vous restez avec nous, la suite de l'atelier numérique c'est dans un instant, le Silicon Carnet. On va s'intéresser à un gars incroyable, un peu fou mais génial, c'est les projets d'Elon Musk, vous savez, le créateur de l'Hyperloop, de Tesla, mais aussi de son projet un jour d'arriver sur Mars. On en parle dans un instant avec Nathalie Doré. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques minutes, on parlera des objets connectés. Alors, est-ce que c'est un Eldorado? On verra ça avec nos invités. On va retrouver notre cyber gadget aussi dans quelques minutes avec Antoine Cyr. Mais dans l'immédiat, c'est notre Silicon Carnet. Et depuis les USA, on retrouve avec beaucoup de plaisir Nathalie Doré. Salut Nathalie.
Bonjour François.
Alors Nathalie, on va parler d'un gars génial maintenant, c'est Elon Musk, donc le fondateur de Tesla, qui a des projets complètement fous, hein, l'Hyperloop, les voyages spatiaux, etc. Et eh bien, vous vouliez nous en parler aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors Elon Musk est en effet une figure ici dans la Silicon Valley. Et alors, en toute simplicité, il est en train de révolutionner à la fois les secteurs de l'automobile, de l'énergie, des transports, et comme si ça ne suffisait pas, il s'attaque aussi à la conquête de l'espace.
Voilà.
Alors, pourquoi ça fait beaucoup, hein. Alors, pourquoi Elon Musk s'investit sur autant de projets? Comment s'apprête-t-il à changer notre quotidien? Je vous propose de revenir sur son parcours et sur son projet qui ont pour ambition tout simplement de changer le monde. Alors, Elon Musk est jeune. Il est né il y a 44 ans en Afrique du Sud. Elon Musk est visionnaire. En 99, il lance une banque digitale qui deviendra quelques années après PayPal. Elon Musk est chanceux. Avec la bulle Internet, il devient multimillionnaire en 2002 lorsque Uber achète justement son entreprise PayPal. Et il décide alors de se consacrer entièrement à ces projets fous dont on parlait. Alors, ces projets commencent avec SpaceX. En 2002, il lance avec 100 millions de dollars cette société de fusées qui avait pour ambition de révolutionner le coût des voyages dans l'espace pour qu'en fait, l'humanité permette d'habiter plusieurs planètes. Rien que ça. Dernière idée en date, la semaine dernière, Elon Musk a fait une annonce qui, c'est le cas de le dire, a fait l'effet d'une bombe. Le président de SpaceX a expliqué qu'il souhaitait lancer des bombes nucléaires sur Mars pour réchauffer la planète et la rendre ainsi plus habitable par des humains. Parce qu'en fait, on a des problèmes de température pour l'instant pour habiter Mars. Alors, il estime que d'ici 3 ans, SpaceX sera en mesure de lancer des fusées vers Mars. Je mettrai un petit bémol parce que Elon Musk est un habitué des effets d'annonce et il ne tient pas toujours les délais. Alors, à voir dans les prochaines années si sa vision va se réaliser. Mais non content de préparer la colonisation de l'espace, Elon Musk veut transformer la manière dont nous vivons aussi sur Terre. Et puisque les déplacements automobiles contribuent fortement au néfaste rejet de CO2, il décide en 2004 d'attaquer les constructeurs de voitures historiques en créant de toutes pièces une marque de voitures électriques, Tesla. Alors, c'est un vrai succès, le modèle S qu'il vend actuellement est la deuxième voiture électrique la plus vendue au monde, derrière Nissan. Pour continuer, en 2006, il ajoute une autre industrie lourde à son giron en investissant 10 millions de dollars dans SolarCity, une société fondée par ses cousins, pour installer des panneaux solaires sur les toits de millions de maisons afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Alors, vous allez me dire, quel lien entre la conquête de l'espace, les voitures électriques, les panneaux solaires et le stockage d'énergie? A priori, aucun. Sauf que, au fur et à mesure des annonces d'Elon Musk, sa stratégie se dévoile et on comprend mieux les liens qui tissent entre elles. Prenons pour commencer le secteur des voitures électriques. Alors, ce mode de déplacement est écologique, mais il pose une réelle contrainte d'usage, l'autonomie de la batterie. Eh bien, Elon Musk a créé des stations superchargeurs pour régler ce problème. Et devinez comment fonctionnent ces superchargeurs avec des panneaux solaires de SolarCity. Le lien est fait.
Oui.
Construire une voiture n'est d'ailleurs pas chose aisée. La question n'effraie pas Elon Musk, puisqu'il s'appuie sur l'expertise de ses ingénieurs de SpaceX pour construire ces Tesla. Là aussi, le lien est fait. Alors, de l'industrie automobile au transport en commun, il n'y a qu'un pas qu'Elon Musk a franchi fin 2013 en publiant un papier évoquant un projet au nom de code évocateur dont vous parliez, François, qui est Hyperloop. Alors, Hyperloop est présenté comme un cinquième mode de transport après la voiture, le train, le bateau et l'avion. Et Hyperloop se compose de capsules projetées à l'intérieur d'un tube. Donc, on sera, nous, dans les capsules pour relier San Francisco à Los Angeles en un peu plus d'une demi-heure, alors qu'aujourd'hui, il faut plus de 6 heures en voiture. Donc, le projet est vraiment ambitieux. C'est d'ailleurs l'un des projets les plus controversés du milliardaire. Quoi qu'il en soit, Elon Musk a décidé de ne pas en faire une société à part entière, comme il a fait avec Tesla ou avec SpaceX, mais un projet open source offert aux collectivités. Voilà, donc un vrai empire qu'Elon Musk est en train de construire avec ses 30 000 employés, tous attelés à poser les fondations d'un monde qui sera, à n'en pas douter, différent. Et je ne compte pas tous les gens que Elon Musk inspire dans la Silicon Valley.
Ouais, et sans aucun doute, il a d'autres projets hein, sous le coude qu'il nous dévoilera dans les mois ou les années qui viennent. Nathalie Doré, merci et place maintenant à la sélection de cyber-gadgets d'Antoine Cyr, mesdames, messieurs. Alors Antoine, quel gadget pour nous cette semaine ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de vision. D'abord avec un miroir intelligent. Il fallait bien que les miroirs deviennent intelligents.
Oui.
D'ailleurs, vous savez que le premier qui a inventé les miroirs intelligents, c'est Jean Cocteau, qui a dit « Certains jours, il faudrait que les miroirs réfléchissent avant de réfléchir. »
Ah, ça c'est beau ça, et c'est vrai.
Voilà. Et donc là, il s'agit d'un miroir vraiment intelligent, donc qui réfléchit dans tous les sens du terme, qui a été créé par une start-up italienne qui s'appelle Solenica, et le miroir lui s'appelle Lucie, et donc ce miroir vise tout simplement à éliminer les zones d'ombre. En fait, il se présente sous la forme d'un globe blanc qui est facile à transporter. Son fonctionnement est assez simple. Il y a un algorithme qui est basé sur des capteurs qui redirigent la lumière. Et donc, il suffit de placer Lucie dans un espace ensoleillé, le rebord d'une fenêtre par exemple, et d'orienter le miroir vers le plafond de la pièce que l'on souhaite éclairer. Et donc, les rayons du soleil sont ainsi redirigés vers le plafond et se diffusent dans l'ensemble de la pièce. Donc, vous avez bien compris. C'est pas un miroir pour se regarder, c'est un miroir pour renvoyer les rayons de lumière comme le font les gens, vous savez, dans les films avec les Indiens qui font des signaux de lumière.
D'accord.
Sauf que là, c'est utilisé pour éclairer la pièce. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il n'est pas nécessaire de déplacer Lucie au fil des heures. Ces capteurs suivent le trajet du soleil et donc le miroir se repositionne automatiquement pour diffuser de la lumière dans la zone qui est dans l'ombre. Il est en plus écologique et économique, puisqu'il fonctionne à l'énergie solaire, c'est la moindre des choses que l'on puisse attendre de lui dans ces conditions. Et donc, voilà, c'est un bon moyen de faire des économies d'énergie. En plus, cette Lucie résiste à la pluie et à la neige. Donc, voilà, quand le temps est changeant, on peut tout à fait le mettre dehors. Voilà. Donc, ça, c'est...
Ça, c'était le premier gadget.
Ça, c'était le premier
gadget. Je crois que vous en avez un deuxième. Qui va peut-être changer la vie des daltoniens.
Exactement. C'est un projet qui a été créé à l'initiative du Musée d'art contemporain de Chicago. Et figurez-vous que le directeur de la communication de ce musée, Matthew Renton, est daltonien. Et donc, il vit entouré au quotidien d'œuvres d'art et il n'était jusqu'alors pas en mesure de saisir toute la portée de ses œuvres. Il faut savoir qu'il y a 5% de la population mondiale qui est daltonienne. Dans sa forme qui est la plus répandue, un daltonien, c'est quelqu'un qui ne peut pas distinguer entre le rouge et le vert, car les cônes de réception au vert sont absents de la rétine. Et donc, les lunettes en chroma, qui sont donc le système dont je vous parle, contiennent des filtres découpés qui aident à séparer les couleurs. Et donc, l'individu qui les porte, s'il est daltonien, est alors en mesure de recréer l'image dans ses couleurs véritables. C'est vraiment une révolution. C'est un fabricant de peinture qui s'appelle Valspar qui a fourni ses lunettes anti-daltonisme au musée d'art contemporain de Chicago. C'est évidemment très astucieux de part d'un fabricant de couleurs de fournir des lunettes qui permettent de mieux voir les couleurs.
Bon, en revanche, si on n'est pas daltonien et qu'on les met, là on devient daltonien.
Probablement. J'ai pas essayé.
Merci Antoine. Allez, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier, notre enquête de l'atelier. On va parler de l'Eldorado des objets connectés en compagnie de Lila Megrawa et nos invités. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. À suivre, la stratégie digitale de Solocal Group tout à l'heure. Espace jaune, bien sûr. À quoi ressemblera l'Homo numericus? Comment le numérique va transformer l'homme? On en parlera tout à l'heure avec Pierre Calmar, notre World Tour, notre French Tech Tour aussi, qui nous emmènera à Toulouse. Puis la rédaction de Zeronet.com, qui sera là, comme chaque samedi tout à l'heure, avec Éric Le Bourlou. Mais dans l'immédiat, c'est notre enquête de l'atelier Lila. Avec nos invités, nous allons parler d'objets connectés.
Mais oui, tout à fait, parce que figurez-vous, les prédictions s'affolent. D'ici 5 ans, les objets connectés devraient squatter notre quotidien. Vous avez d'ailleurs, mon cher François, écrit un livre sur le sujet.
Exactement, co-écrit un livre.
Co-écrit un livre.
Voilà. Alors, ces objets connectés qui changent notre vie, ou qui vont changer notre vie. Tout un programme.
Qui vont changer notre vie, aux éditions First.
Aux éditions First, bravo, vous avez tout dit. Très bien, Lila, bravo. Rien à dire.
Alors, c'est fameux, quelques chiffres. Donc, les objets connectés, apparemment, selon à horizon 2020, selon le cabinet IDC, dépasseront les 200 milliards, selon l'IDA de 80, selon Gartner 30. Plus impressionnant, selon McKinsey, l'impact de l'Internet des objets sur l'économie mondiale devrait se chiffrer à plus de 6 000 milliards de dollars en 2025.
Donc un Eldorado, on peut le dire.
Tout à fait. Alors, c'est une question. Est-ce que c'est vraiment un Eldorado? On va essayer de récolter des éléments de réponse avec nos deux invités. Anne-Sophie Bordry, bonjour.
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 Vous êtes présidente d'une think tank Objets connectés et intelligents France. Luc Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du G9+. En 2013, G9+, en collaboration à la fois avec Renaissance Numérique et le think tank dirigé par Anne-Sophie, vous avez édité un livre blanc baptisé « Les nouveaux Eldorados de l'économie connectée ». Dans ce livre blanc, vous enjoignez un peu à une prise de conscience de l'enjeu et de la nécessité d'avoir un Internet des objets français. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2015?
Il s'est passé énormément de choses, bien au-delà de nos espérances. Si j'en juge déjà par la forte présence des startups françaises au Consumer Electronics Show de Vegas, qui est quand même le lieu où la profession se réunit. Plus récemment, on a eu le DLD à Tel Aviv, le Digital Life Design Innovation Festival, qui a été un grand succès. Et puis, il y a des choses un petit peu plus locales, un petit peu plus nationales, avec Simplon.co, qui a installé, par exemple, à Marseille, avec Centrale Marseille, une antenne pour former de façon innovante au numérique les jeunes issus des quartiers de Marseille. Donc, il y a une profusion de projets, la Cité des Objets Connectés aussi à Angers. Et puis, il y a des start-up emblématiques qui sont sorties vraiment. On se souvient tous de NetAtmo, avec Fred Potter, qui avait levé 4,5 millions d'euros. C'était en 2013, c'est déjà vieux. WeSings, 23 millions d'euros à enchaîner mi-2013, c'était quelques mois après. Parrot, qu'on ne cite plus dans les drones. Actility, dernièrement, qui travaille sur les réseaux bas débit, basse consommation, très efficace pour faire des choses simples avec des objets connectés dans la durée, qui a levé 22 millions d'euros, ça c'est français. Et puis bien sûr Sigfox, la plus grande, 100 millions d'euros. Et puis il y a des choses absolument fabuleuses qui arrivent, il y a Plume, de Romain Lacombe, qui est un objet connecté génial, qui va permettre de détecter la pollution de l'air. Puis j'en cite un dernier pour la route, c'est Dream, de Hugo Mercier, qui est un autre entrepreneur exceptionnel. C'est un serre-tête connecté qui veille sur votre sommeil et puis qui s'appuie sur les travaux de neurosciences très poussés de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui a gagné dernièrement le grand prix de l'innovation de la ville de Paris. Donc je dirais, on a tout à la maison. Et ils sont au rendez-vous. Maintenant, l'enjeu, c'est le scale-up. Autrement dit, passer de une belle start-up, une belle innovation qui éclabousse de son talent un périmètre national, voire multinational, à une dimension continentale et mondiale, parce que l'enjeu des objets connectés, c'est bien de s'emparer d'un marché mondial.
Anne-Sophie Bordry, vous partagez ce point de vue ?
Je partage complètement les...
Ce cocorico.
Exactement. À Las Vegas, on parlait de la French Tech. J'espère que l'année prochaine, on parlera des entreprises et des marques qui se seront fait une place sur le marché mondial. Et c'est ça peut-être le scale-up qu'on attend pour l'année prochaine. C'est très bien de se réunir avec le drapeau français en disant on est tous orientés sur l'innovation, les objets connectés, on a toutes les filières d'excellence en France pour le faire, mais il faudrait que l'année prochaine, Netatmo, Parrot, etc., à côté d'eux, on ait des grands champions qui soient mondialement connus. Ça serait extraordinaire pour la France.
Est-ce que ce que vous dites, finalement, c'est que plus que le grand public, ce raz-de-marée objet connecté doit et va impacter en premier lieu les industriels?
Oui, alors je crois qu'il y a les startups d'un côté, et ça c'est les objets connectés, c'est une chance pour elles. Il y a aussi les entreprises traditionnelles. Donc toute l'industrie traditionnelle peut bénéficier des services connectés à tous les niveaux de son entreprise et se transformer. On peut prendre l'exemple de Terraillon, qui est une entreprise française, qui aujourd'hui communique, sort des objets connectés, alors que c'est une entreprise très traditionnelle. Donc elle a pris le tournant des objets connectés. Et c'est ça qu'il faudrait voir apparaître au salon de Vegas l'année prochaine.
Alors Terraillon, c'est un très bon exemple, puisqu'ils se sont emparés de ce champ des objets connectés pour faire émerger de nouveaux services et notamment un abonnement autour du bien-être. Au final, comment avec cette balance connectée, je vais vendre un abonnement? Est-ce que les objets connectés, quelque part, ça amène pas l'avènement de l'abonnement, de la location d'un objet, d'un hardware, suivi d'un service?
Si, c'est un modèle économique qui est aujourd'hui très en pointe et très utilisé. Peut-être que demain, il y en aura d'autres. En réalité, il y a quelques années, au début des objets connectés, on a eu quelques gadgets qu'on achetait comme des bracelets connectés sans abonnement. Et ceux-là, on les utilisait plus ou on les jette quand ils ne marchent plus. Avec les services connectés, on a toute une notion de maintenance. Et par conséquent, qui dit maintenance, qui dit abonnement potentiellement. Et donc, c'est pour ça que naturellement, les services connectés s'orientent vers le système de l'abonnement. Mais peut-être que demain, on aura d'autres modèles économiques qui émergeront, notamment peut-être avec la publicité. Et du coup, ce sera gratuit pour l'utilisateur, pour les services grand public, peut-être. Et puis, dans l'industrie elle-même, pour la maintenance, par exemple, des machines-outils, si on a des objets ou des services connectés qui détecte une défaillance d'un boulon ou de quelque chose comme ça, là, il y aura peut-être de nouveaux modèles économiques aussi qui vont se créer en B2B dans les entreprises.
Alors maintenant, à la fois, Luc, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Ouais, je pense que sans le service qui vraiment projette l'objet dans le quotidien des gens, l'objet, il finira, comme l'a dit Anne-Sophie, dans le tiroir, comme tous les gadgets. Donc je pense qu'il y a un vrai continuum entre objet, data générée par ces objets, le service, et puis évidemment le cloud qui permet de rendre ce service disponible à tout moment, de n'importe où, avec n'importe quel terminal. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu et c'est un changement de business model. On voit que les acteurs traditionnels précisément passent de modèle où ils vendent à l'acte, où ils vendent sur affaire, à un modèle complètement as a service, hein, comme on dit dans l'industrie du logiciel. Et on voit ce modèle du logiciel à la demande, au service, s'emparer finalement du monde réel et du monde des services réels.
Anne-Sophie ?
Ce qui pourra entrer dans le modèle économique des services connectés, c'est aussi la mobilité, très certainement. Donc, on pourra géolocaliser les services. Mm-hmm. Et là, il y a énormément d'imagination à avoir pour trouver des modèles économiques sur les lieux et les emplacements des usages des services des utilisateurs. Si, par exemple, on va à un concert, on utilise un service connecté pour aller à ce concert, ouais. Peut-être qu'en B2B, pour le concert, la maison de production, les artistes, il peut y avoir des services innovants qui trouvent leur modèle économique sur la géolocalisation à l'instant T, qui sera le moment du concert.
Vous évoquiez cette notion de maintenance, de besoin, de nécessité de maintenance qui va émerger. Est-ce qu'il n'y a pas également, est-ce que la sécurité, c'est pas central? Parce qu'au final, on a déjà le cas de motos Ducati qui se sont fait pirater. Où s'en est?
Alors en France, on a une filière d'exception qui sont nos ingénieurs. Donc on a une industrie du logiciel qui est très en pointe. Et sur le marché Euronext, il y a quand même un certain nombre de sociétés innovantes qui sont cotées, dont certaines qui sont dans la sécurité, justement. Donc je crois qu'il faut croire et avoir confiance dans le marché. Et si Ducati sort une moto connectée, peut-être qu'elle prendra en compte cette notion de sécurisation de ses services connectés et prendra du coup appui de la compétence de, par exemple, Inside Secure, qui sait faire ce genre de choses-là pour la sécurité des services.
Je crois que si on se méfie par avance, on n'innove pas. Hein, donc ça, c'est vraiment, il faut se détendre par rapport à ça. Maintenant, en matière de sécurité, il faut quand même le dire, sur le domaine des objets connectés aujourd'hui, très majoritairement un niveau faible de sécurité, voire très faible, et accable en grande majorité. Donc c'est la vieille histoire de la police et des voleurs. Hein, c'est-à-dire que vont émerger au milieu de tous ces acteurs des acteurs de confiance qui auront travaillé très profondément la sécurité. La sécurité, c'est pas uniquement sur le hardware de l'objet, c'est aussi sur le software, c'est aussi sur la communication radio. Donc c'est très complexe en réalité. Il y a plusieurs maillons et comme on le sait, c'est le maillon le plus faible qui fait
fenêtres
la sécurité.
Être brisées,
voilà. Et donc je pense que vraiment ça va être un sujet de différenciation extrêmement fort maintenant que l'exubérance. On a à peu près tout dit sur quel objet pouvait être connecté. Donc l'enfance de ce marché est passée. On rentre dans l'adolescence. La sécurité va être une différenciation extrêmement forte.
On est passé de l'enfance à l'adolescence. Moi, j'ai une question, Luc. Est-ce qu'on peut pas craindre un éclatement d'une bulle de l'objet connecté? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs qui se lancent dans ce domaine. Voilà, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Et est-ce qu'on va pas arriver à une saturation de l'objet connecté pour après à revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable?
Oui, bien sûr, mais je crois encore une
fois qu'on... Parce qu'aujourd'hui, tout se connecte. Hein.
Absolument.
On le voit à Las Vegas chaque année, il y a des trucs incroyables.
On voit ça, ça devient même rigolo. Hein.
Oui. J'ai vu un biberon connecté, une semelle connectée.
Une couche connectée.
Une couche connectée. Donc ça, je ne l'ai pas vu, ça.
Ils sont sortis ça en Espagne, notamment, et c'est formidable pour les mamans qui s'occupent de leurs enfants. Savoir ce qu'il faut faire avec un nouveau-né, peut être très utile.
Est-ce que c'est pas un peu... des médicaments ou des aliments connectés? Moi, je pense qu'on parle quand même...
C'est un peu too much, quand même.
Pour répondre, je pense qu'on parle quand même beaucoup trop d'objets. Et que le sujet aujourd'hui, c'est plus vraiment l'objet. Aujourd'hui, pour moins de 1 euro, vous avez à peu près n'importe quel connecteur que vous pouvez assembler dans n'importe quel Fab Lab pour pas grand-chose en termes d'assemblage et de coût du matériel. Par contre, l'objet, il est important parce qu'il incarne le service, mais c'est vraiment la donnée générée qui est la clé des business models à venir. Et la donnée, elle soulève des questions bien plus fondamentales que l'objet en tant que tel sur la propriété. Et puis la privacy, c'est-à-dire la sécurité et ce que l'on veut donner à certains services, à certaines entreprises en accès, confiance à ces données personnelles. Et là, il y a une valeur bien plus importante que celle des objets. L'objet n'est qu'un moyen et l'objet, il est assez clair qu'il va avoir tendance à disparaître une fois que cette enfance sera passée, cette crise d'adolescence sera passée, de la sécurité. Il va disparaître parce que finalement...
Tout sera connecté sans qu'on se rende compte en fait que c'est connecté, c'est ça
l'idée. On comprendra que tout simplement l'Internet des objets, c'est l'Internet. Ou que tous les objets étant connectés, on ne parlera plus d'objets connectés, tout simplement. On sera dans un monde connecté par défaut. Vous n'expliquez plus qu'un sèche-cheveux est électrique.
Non, c'est
voilà,
vrai.
On le dit plus.
Ouais. C'est pas mal celle-là. Elle est bien.
Rachel Adjean allait d'ailleurs plus loin dans cette idée de la fin des objets connectés physiques. Lui, il prédit carrément la fin de ces objets physiques en disant qu'en gros, ces fameux...
Ce sera
invisible. Est-ce que vous partagez cette prédiction?
Je crois qu'il a pour partie raison, bien sûr, parce que déjà vous demandez au grand public ce que c'est qu'un objet connecté, il n'est pas forcément capable de vous donner une définition très claire. Le grand public, lui, utilise des services, et c'est ce que disait Luc Breton tout à l'heure, c'est que ce qui compte, c'est le service et pas de savoir comment fonctionne l'objet, le sèche-cheveux avec l'électricité ou pas. Donc on est dans le monde de l'internet et Raphaël Adjean a forcément un petit peu raison. Il y a des chercheurs en médecine, notamment nous, on a dans notre think tank un grand professeur de médecine qui est le professeur Cabanis, qui est en neurosciences, qui travaille sur ces sujets et qui a une réflexion intéressante. Il y a une question qui se pose en termes médicaux. On parle du wearable tech, donc on a des objets sur soi et on peut avoir aussi imaginé des objets sous peau. Quelle est la tolérance? On peut avoir une tolérance quand on a une maladie et qu'on se dit que l'objet va nous guérir et que c'est
en tout cas, ou améliorer notre confort au quotidien, bien sûr.
Oui, et que c'est vital. Si ça n'a pas d'enjeu vital, on ne sait pas encore si l'individu est capable d'admettre un objet sous peau pendant une longue période. Donc cette question-là, c'est une réflexion que se posent les médecins en relation avec l'industrie.
Luc.
Oui, je pense que beaucoup d'objets, finalement, ne seront visibles à l'avenir, ou maintenant déjà, plus qu'au travers de leur télécommande. Hein, c'est-à-dire le smartphone, le plus souvent, pour un bon moment encore. Demain, les watches. D'ailleurs, vous n'allez plus tapoter sur l'écran de votre montre connectée, juste parce que c'est pénible et c'est tout petit. Vous allez lui parler. Hein, et donc, la commande vocale avec des services intelligents derrière, va se généraliser, je pense, dans les mois qui viennent. L'intelligence artificielle est derrière ça. Et à partir du moment où mon mobile ou ma watch devient, ma montre, pardon, devient la télécommande de mes activités, évidemment, à partir de là, les objets deviennent invisibles parce que ça n'est pas l'objet qui compte, c'est ce que je vais intimer de faire à cet objet un scénario, une commande ou une réponse à un besoin. Et puis d'autres vont se développer dans leur propre affichage ou en interaction avec le consommateur. Je pense à Echo d'Amazon, le tube auquel vous parlez, qui est assez bluffant. Je le teste avec mes enfants à la maison. C'est assez marrant de voir les interactions. C'est tout à fait fascinant. Ma femme dit inquiétant, mais je pense qu'elle a, elle a parfaitement raison. Il faut bien regarder ce que cela entraîne. Et puis les affichages urbains, les magasins interactifs, les montres, les vélos. Donc il y a beaucoup de choses qui vont faire que effectivement ces objets connectés vont devenir, vont s'immiscer de façon fluide dans nos vies.
Parfait. Il y a malgré tout encore quelques défis technologiques, notamment l'autonomie et l'énergie pour tous ces objets, parce qu'on voit qu'aujourd'hui la montre connectée, il faut la recharger toutes les 24 heures, et ça c'est un souci. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à tous deux.
Merci
Luc Breton et Anne-Sophie Bordry. Donc, on revient dans un instant la suite de l'atelier. Ça sera notre web stratégie dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, après avoir parlé des objets connectés il y a un instant, avant de nous poser la question suivante, à quoi ressemblera l'homo numericus? Et avant aussi de faire un petit détour du côté de la rédaction de Zeronet.com comme chaque samedi. Et bien avant tout cela, c'est notre web stratégie sur BFM Business dans cet atelier numérique avec Lila Megraoua, bien sûr. On va s'intéresser à la stratégie digitale de Solocal Group maintenant. Ex-Page Jaune. C'est vrai que Solocal Group, on ne connaît peut-être pas aussi bien que cette marque Page Jaune.
Mais oui, tout à fait. Alors, 75% de chiffre d'affaires généré par le digital. Un chiffre quand même assez impressionnant. On peut dire que Solocal Group a bel et bien transformé son l'essai en matière de transformation numérique. On va s'interroger sur comment passons finalement d'un bottin édité annuellement à un business plus ou moins exclusivement, presque exclusivement
digital,
concentré sur le digital. Alors pour en parler, on a le plaisir d'avoir Christophe Pingard. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Christophe, vous êtes directeur général délégué de Solocal Group. Comment comment et quand finalement vous avez entamé cette réflexion, ce virage vers le numérique?
Alors, on va pas refaire toute l'histoire, on a le temps est compté, mais quelque part dans les gènes de Page Jaune, il y a toujours eu un tout petit peu de digital, puisqu'en fait on a commencé à faire de la communication sur le Minitel, ouais. Qui a été un ancêtre du web.
3615 Page Jaune.
Donc c'était, je veux dire, ça a été l'ancêtre du web, et entre une petite partie de notre activité, c'est devenu, je dirais, la plus grosse partie de notre activité. Comme vous l'avez évoqué, on fait maintenant plus de 75% de notre activité sur le digital. Et à un moment, il faut opérer une bascule dans les organisations. Mmh. Et celle-là, on l'a opérée, je dirais, en 2012. On a considéré que l'ensemble de nos modes de fonctionnement devaient passer d'un mode annuel à un mode temps réel. Je communique souvent en interne en disant qu'il fallait passer un petit peu du mode batch au mode temps réel. C'est-à-dire que, entre autres, que ce soit les systèmes d'information, les organisations doivent apprendre à travailler à la vitesse du web. Mmh. Entre des parutions dans des annuaires que vous pouviez faire une fois par an, nous, nos parutions maintenant elles sont en temps réel, sur des sites, la capacité à diffuser sur l'ensemble du web, parce qu'en fait on a toujours ces deux pattes, une patte qui est un média et en même temps une agence de web marketing. Donc on est devenu une agence de web marketing.
Justement, ça a totalement transformé votre modèle économique.
Alors, ça l'a transformé en partie, parce qu'en fait, nos annonceurs, nos clients restent des professionnels locaux et il faut justement les accompagner sur le web, leur apprendre à exister sur le web. Auparavant, ils existaient dans d'autres supports. Et il faut qu'on leur apprenne à être présents sur le web. Ça a surtout transformé nos métiers, puisqu'on peut considérer que sur les trois dernières années, on a plus de 3500 collaborateurs qui ont changé de métier sur les 4500 collaborateurs du groupe. Donc ça c'est un changement extrêmement important dans les outils à utiliser, les métiers. Les métiers ont totalement évolué.
Les compétences aussi, j'imagine.
Les compétences, évidemment, quand vous devez designer, dessiner, créer des produits pour le web, c'est pas la même chose que de les créer sur le papier. Quand vous devez créer de l'éditorial sur le web, vous pouvez pas l'écrire de la même manière que sur le papier. Donc tout ça, c'est des nouveaux métiers qu'il a fallu créer, il a fallu former. Et promouvoir ces solutions, c'est aussi les promouvoir de manière différente. Vous devez voir beaucoup plus souvent vos clients. Donc voilà, ça a été une transformation très profonde, qui s'accompagne évidemment de partie ressources humaines, mais aussi beaucoup de choses autour de toutes les technologies qui sont utilisées au quotidien.
Et qu'est-ce qui reste du papier aujourd'hui?
Ce qui reste du papier, c'est d'abord un complément au digital. Ça reste un bon complément au digital. Et je pense que demain, le papier sera le pendant du digital. C'est-à-dire qu'on trouvera sur le papier des supports qu'on peut avoir sur le digital. Ça représente encore 20-25% de notre activité.
Mais ça décroît d'année en année?
Oui, ça continue de décroître. On est sur des décroissances qui sont de l'ordre de 20%. Et je pense qu'à un moment, on arrivera à un seuil qui sera autour de peut-être 15-20% du total de l'activité. On n'en est pas très loin. Parce qu'il subsiste des activités où certains professionnels veulent encore être présents dans le papier. On peut, à certains endroits en France encore, chercher des informations dans le papier, mais ça continue de subsister.
Certains endroits, pourquoi? Dans les endroits plutôt
problèmes d'accessibilité, et puis aussi par rapport à des types de populations. Vous pouvez avoir des populations qui sont encore plus habituées à chercher sur le papier. Mmh. Et puis, il y a des régions en France où on voit l'Internet parfois avec notre œil un petit peu parisien, mais il n'est pas encore disponible partout à la même vitesse.
Oui,
parfois,
en fait, il y a une complémentarité. Où on est moins connecté, il y a le papier, en fait.
Voilà. Et quand vous allez dans les métiers qui restent proche du bâtiment, par exemple, dans le bâtiment, des professionnels du bâtiment vont eux-mêmes parfois chercher dans des documents papier des professionnels du bâtiment. Ça reste, je sais ce qu'on dit, c'est maintenant à peu près moins de 20% de notre activité, mais c'est évidemment un pendant maintenant avec tout ce qu'on peut faire sur le numérique.
Est-ce que quelque part on pourrait dire que vous officiez en tant que conseil, enfin force de conseil auprès des professionnels pour les aider, les accompagner dans leur digitalisation, leur numérisation?
Le libellé de poste de nos commerciaux sur le terrain, c'est conseiller en communication digitale. Leur métier est véritablement d'aider nos clients à être présents sur nos médias, mais à être présents sur l'ensemble du web. Raison pour laquelle on a signé un partenariat récent avec Apple, puisqu'en fait l'ensemble de nos contenus sont diffusés maintenant sur les maps d'Apple. Raison pour laquelle on avait des partenariats avec Bing. Nos professionnels ont besoin d'exister sur le web et ces conseillers en communication apportent ces services.
Très bien, mais merci beaucoup.
Merci
Christophe Pingard. Je rappelle, vous êtes directeur général délégué de ce local groupe.
À quoi ressemblera l'Homo numericus? C'est la question qu'on posera à notre invité dans un instant sur BFM Business. C'est l'atelier numérique, à tout de suite.